Voix enchantées, l'émission qui donne la voix à de jeunes écrivains amateurs passionnés par l'art et sensibles à la beauté. Une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Juliette, qui après un master de littérature générale et comparée à la Sorbonne Nouvelle, travaille à TSF Jazz. C'est bien ça, Juliette ?
Oui, c'est ça, Louisa. Je travaille pour la matinale, donc en tant qu'assistante à TSF. Et je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui.
Choix de l'artiste. Comme tous les mois, l'émission commence par le choix d'un artiste qui te touche particulièrement. Alors, de qui as-tu décidé de nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'un artiste américain qui s'appelle Gilles Cotteron et qui a été donc chanteur, écrivain et aussi militant. Alors je l'ai découvert il y a 10 ans, c'était en 2011, quelques mois après sa mort. Donc ça reste un grand regret pour moi parce que je pourrais jamais le voir en concert. Et en fait, je suis tombée sur lui un peu par hasard, parce que je m'intéressais un peu à la musique jazz aux États-Unis, à la création musicale de la période à peu près années 50, années 90. Et je suis tombée sur le single de Stevie Wonder qui s'appelle Happy Birthday, qui a été une chanson écrite pour Martin Luther King. Et en fait, Stevie Wonder s'est lancé dans une tournée qu'il a appelée Autumn Van July pour rendre férié le jour de naissance de Martin Luther King.
Et alors, il est rendu férié ou pas ce jour ?
Il a réussi, donc maintenant c'est le troisième week-end de janvier. Et donc Gilles Cotteron participait à cette tournée, il faisait souvent la première partie et il remontait après sur scène avec lui. Et donc à ce moment-là, j'ai tapé son nom, j'ai cherché un peu et ça a été une révélation. It stands out on a highway, like a creature from another time. It inspires the baby's questions. What's that? For their mothers as they rhyme. Sa voix, c'était comme quelque chose d'hyper familier que je connaissais. Et je savais à ce moment-là que ça allait être une voix qui allait m'accompagner toute ma vie. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un truc que je ressens comme si c'était un peu sous ma peau. C'est une voix que j'aime écouter à n'importe quel moment. C'est sa voix, son grain de voix, quelque chose d'assez transcendant en fait. C'est comme si sa voix était assez familière.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de sa poésie, de ses textes ? Et est-ce que ces textes retranscrivent son engagement politique ?
Oui, complètement, que ce soit en musique ou même lorsqu'il s'est lancé finalement dans sa carrière première qui était la littérature, puisqu'il a toujours rêvé d'être écrivain, surtout poète, mais il a écrit plutôt des romans policiers, donc il devait avoir 18 ou 20 ans, il a commencé par là. Et ça a toujours été des textes très engagés politiquement, de critique de la société américaine et surtout d'engagement auprès de la communauté africaine-américaine et des problèmes que ce soit du système carcéral, de l'économie, de l'accès aux études. La ségrégation raciale venait à peine d'être abolie. Donc ouais, il a toujours mis son engagement politique au centre de ses textes. Il y a quelques chansons où il l'aborde pas, mais ça reste quand même le fond de son propos. Par exemple, il a toujours remis en question les institutions, l'institutionnalisation du racisme, l'hyper-ghettoisation des quartiers aux États-Unis. Enfin, il a toujours mis certaines thématiques en avant et ça a été son cheval de Troie, entre guillemets.
Du coup, est-ce qu'il y a des paroles auxquelles tu penses qui, pour toi, représentent bien son engagement politique dans une chanson ?
Un morceau qui s'appelle B-Movie, que j'ai découvert assez récemment. Un morceau justement un peu slamé, plus parlé et rappé que chanté. Dans un couplet, je me souviens plus exactement, il détruit un peu la mythologie américaine, enfin de la figure du pionnier américain, de la conquête de l'Ouest. Il parle de John Wayne. Et en fait, c'est un morceau qu'il a écrit juste après l'élection de Ronald Reagan, en 81. Et en fait, il utilise énormément la satire et l'ironie pour dire « Regardez, les États-Unis, là, jouent complètement un B-movie, quoi. On est dans un truc complètement irréel et pathétique. Et l'élection de Reagan fait converger vers ça, quoi. »
Coup de cœur musical. Juliette, nous allons à présent écouter ton coup de cœur musical. Peux-tu nous annoncer le nom de l'artiste et le titre de la chanson ?
Chico Buarque, Quotidiano.
Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã.
todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de opulão. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.
Alors Chico Buarque, c'est un chanteur-compositeur brésilien de Rio qui a été une figure de proue du mouvement qu'on appelle la MPB brésilienne, qui est un courant musical qui est apparu à la fin des années 60 et qui a été un peu la fusion entre le jazz, la bossa nova, la samba, le rock. Et donc c'est lui qui a amené ça avec Gilberto Gil et Caetano Veloso. Et donc c'est un artiste très populaire au Brésil et qui est maintenant écrivain en fait. Il a fait un peu un chemin de la musique vers la littérature. Donc Cotidiano, c'est un morceau qui est extrait de l'album qui s'appelle Construção, qui est sorti en 1971 et qui est un album qui a été écrit pendant la dictature au Brésil et qui justement utilise justement ces rythmes un peu naïfs, un peu joyeux pour décrire le quotidien sous la dictature. Et elle raconte en fait le quotidien d'un homme qui part tous les jours au travail et dont la femme cette femme lui voue un amour un peu oppressant. Elle l'attend toujours, elle lui prépare à manger, elle le retient, elle est toujours devant la maison à l'attendre, et lui en fait un travail éreintant, et tous les jours il part et il rentre chez lui le soir, et en fait il raconte la frustration et puis un peu l'étouffement qui envahit le pays, mais il se sert de cet homme-là et de ce quotidien pour parler finalement de la colère et de la frustration de vivre sous la dictature.
Est-ce qu'il y a un parallèle entre la dictature et la femme oppressante à la maison, ou pas forcément?
Ouais, en fait cette femme-là incarne un peu cette dictature, elle est un peu la personnification de la dictature finalement.
Et est-ce que ce quotidiano éreintant de cet homme se ressent dans la structure de la chanson, parce qu'elle est assez répétitive?
Il y a comme un refrain qui revient tout le temps, donc tous les jours, je vais, je m'en vais, etc. Et il le répète à chaque fois, il introduit des nouvelles informations. Et donc là, sur la version originale, dans la langue, il y a concrètement comme un tissage qui se fait à chaque fois de répétition, et il introduit à chaque fois d'autres éléments. Et donc avec ces répétitions-là, on a l'impression qu'il déroule une bobine au fur et à mesure, en introduisant toujours des nouvelles choses et en développant à la fois un jeu sur la langue et sur les sonorités.
Partage de texte. Donc Juliette, tu vas maintenant nous lire un texte que tu as écrit. Est-ce que tu peux nous le contextualiser un petit peu?
Oui, alors c'est un texte qui fait partie de mes carnets de voyage que j'ai écrit quand je suis partie en Amérique du Sud. 4h20. Le réveil sonne. Il ne me reste qu'un seul boule-quies, dans l'oreille droite. La nuit est lourde, le seul bruit du dortoir, ce sont les ronflements, les corps qui se retournent dans les draps et ses respirations anonymes. Elle a encore son masque sur les yeux. 4h50. Elle serre ses lacets, à deux fois. Double nœud. Sac sur le dos. Tente, c'est bon. Eau, c'est ok. Nourriture, j'ai. T'as bien pensé à la crème solaire? La trousse de secours? Attends, j'arrive. Je remonte et referme doucement la porte du dortoir derrière moi. Le sommeil de 18 personnes dépend de ma discrétion. 5h45. Le bus est là, direction Katchora. Trois vieilles femmes sont assises à l'avant. L'une d'elles dort, des sacs débordant de tissu sur ses genoux. Sa voisine nous sourit. Arrivés au village, nous montons dans un taxi avec deux autres passagers. Le conducteur ouvre les fenêtres et accélère. La voiture file dans un paysage grandiose. Le crucifix accroché au rétroviseur se balance au rythme de la musique andine qui sort du lecteur CD. 10h. Nous y voici. 14h. Déjà 4h que je regarde mes pieds pour éviter de déraper sur une pierre. Le chemin ne fait que descendre et le soleil fait progressivement fondre ce versant de montagne et nos deux silhouettes avec. Les mules qui empruntent le sentier cassent le chemin. Il faut absolument se focaliser sur nos pas pour éviter de trébucher. Première pause. Nous sortons nos provisions. En face de nous, 3085 mètres de dédain. La petite sœur du Machu Picchu nous toise. Si tout se déroule comme prévu, nous devrions y arriver après-demain. Pourtant, nous n'avons fait que descendre. 16h. Nous marchons en silence, suivant le rythme que forment les pierres qui s'entrechoquent lorsque se pose un pied, puis l'autre, et ainsi de suite. Nous approchons d'une rivière, l'eau des glaciers ne s'écoule pas, elle jaillit. Le bruit du torrent se rapproche, nous devrions l'apercevoir derrière ce virage. Nous décidons d'entamer l'ascension. 3 heures nous séparent de notre point de chute. Les pensées fusent. Nos corps suivent une mécanique rigoureuse. Ils marchent seuls. Un pas, puis l'autre. Encore un. Inspiration, un pas, expiration. Mon corps s'en va seul. Ce sac me pèse. Il devient de plus en plus lourd. À chaque lacet, sa nouvelle pierre. De ma tête à mon sac. Je vide, je porte. À ma droite, une biche arrive. Elle court, traverse le sentier, s'arrête, nous regarde et disparaît. 19h. Nous arrivons au campement de Santa Rosa. Miguel, Eve et leur fils sont assis à l'intérieur d'une tienda en terre séchée. Ils nous proposent des pâtes au thon. Une dégustation à la frontale, sous les étoiles. Réconfort. Nous installons la tente sous la seule surveillance de la lune. La fermeture extérieure ne fonctionne pas. La nuit brille, nous éteignons les lumières et glissons dans nos sacs de couchage. Minuit. Une attaque nocturne de sauterelles nous tire du sommeil. Cette nuit-là, nos rires ont atteint le sommet avant nous, là-haut, jusqu'aux ruines incas. Marcher au sommet du monde, dormir dans une pirogue, dévoiler des abysses.
L'œuvre phare. Tableau, roman, film ou encore pièce de théâtre, de quelle œuvre vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Donc Garcia Marquez, c'est un écrivain colombien qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1982 pour ce roman et qui a été novelliste, journaliste, militant, qui s'est beaucoup intéressé au cinéma et qui est vraiment, pour moi, un génie littéraire. Donc « 100 ans de solitude », en fait, nous entraîne dans l'histoire de la famille Buendía et de ses 6 générations qui sont installées dans un village qui s'appelle Macondo, qui est situé sur la côte caraïbe de la Colombie. Et en fait, Macondo, c'est un village qui s'appelle Aracataca. Donc c'est un village qui existe, qu'on peut visiter maintenant. Et donc, l'action du roman se déroule uniquement dans ce petit hameau, entre guillemets. Et on arrive dans une sorte d'âge d'or où le village est en autarcie du monde, c'est une forme de paradis primitif. Et au fur et à mesure, ce paradis s'étiole petit à petit, des étrangers arrivent au village, s'installent. Et en fait, on va suivre l'histoire de cette décadence.
On dit souvent de ce roman qu'il est un peu dur à lire dans le sens où le lecteur peut se perdre parmi tous les personnages de ces 6 générations de cette famille. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé à la lecture ? Est-ce qu'il y avait des moments où tu étais un peu perdu ? Est-ce que tu t'es fait des espèces de tableaux, des fiches pour te rappeler qui était qui ou...
En fait, ça a été compliqué. C'est un roman, je pense, je m'y suis mise peut-être 3 fois avant d'arriver à rentrer vraiment dans l'intrigue. Parce que comme tu le dis, il y a énormément de personnages et l'auteur, donc Gabriel Garcia Marquez, joue complètement de ses noms, il réutilise les mêmes. Donc j'ai carrément fait un arbre généalogique à la fin de mon bouquin pour pouvoir me repérer. Et en fait, c'est aussi moi ce qui me... ce qui me paraissait un peu compliqué, c'était l'invraisemblance. C'est-à-dire qu'on arrive dans un monde à demi magique où les gens disparaissent, les morts se promènent dans le village, hein, quelque chose d'un peu déroutant en tout cas, qu'on n'a pas l'habitude de lire ou qui fait pas partie de nos traditions esthétiques en Europe, entre guillemets, ou sur de la littérature américaine ou anglaise.
C'est un genre qu'on appelle le réalisme magique, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ou alors le réel merveilleux, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est un peu une écriture de la démesure, il y a beaucoup de magie, de voyance, des choses qui nous paraissent complètement fantastiques alors qu'elles sont intégrées complètement au réalisme, entre guillemets, du roman, puisque finalement, c'est aussi tiré d'énormément de croyances ou de coutumes qui ne sont absolument pas bizarres.
Souviens-toi. Comme tous les mois, je demande à l'invité de partager avec nous une bribe de phrase entendue dans un lieu public quelconque qui l'aurait interloqué, surpris, amusé. Alors Juliette, quelle est ta bribe de phrase ?
Alors c'était la semaine dernière au travail, puisque je travaille dans une radio, et donc on était la veille du jeudi 11 novembre, donc le jour férié, il n'y a personne à la radio, personne travaille, et donc il faut à chaque fois enregistrer les émissions, les annonces et les désannonces de morceaux. Et donc on a une collègue qui est arrivée et qui a crié « Allons voice tracker l'armistice ». Et ça nous a tous fait bien rire parce qu'on entend ça qu'à la radio finalement.
Et c'est quoi alors voice tracker ?
Alors voice tracker, c'est simplement enregistrer sa voix en amont, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours un animateur derrière le micro et donc ça permet de pouvoir s'enregistrer pour être différé.
C'est ce qu'on est en train de préparer pour nos auditeurs en fait.
Oui, exactement.
Juliette, d'avoir été la voix enchantée du jour.
Merci à toi.
On se retrouve le mois prochain à 18h sur Radio Campus Paris.